Jésus ne demande-t-il pas à ses disciples un comportement au-dessus du raisonnable, voire même du possible? D'accord, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça reste une règle barbare. C'est bon pour les civilisations archaïques ou les opinions du beauf moyen qui estime qu'on devait faire subir aux coupables ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes ou l'équivalent. Mais Jésus n'enseigne pas la simple modération dans l'application de la justice envers un coupable qui a causé un dommage à une victime. Comme dirait Jésus, ceux qui ne sont pas croyants modèrent aussi les peines, en se fondant sur l'idée que le coupable le plus pendable, auquel le meilleur avocat n'arriverait pas à trouver la moindre circonstance atténuante, demeure un être humain que l'on doit traiter avec respect et ne pas anéantir par une vengeance qui, pour être mathématiquement proportionnée au mal qu'il a commis, n'en demeurerait pas moins disproportionnée, puisqu'elle conduit la victime ou le juge, qu'il soit judiciaire ou médiatique, à traiter le coupable avec autant de cruauté que lui en a montré envers sa victime. Donc, pas œil pour œil, ni dent pour dent, car crever l'œil de celui qui m'a arraché le mien ne me rendra pas mon œil perdu. Mais quand même, une condamnation à la prison ferme et à des dommages et intérêts. Il y a en nous une réaction viscérale de justice qui fait dire qu'il faut que les coupables payent pour tout ce qu'ils ont fait. Et si l'on est victime d'une injustice, ou si l'on s'estime tel, on dépose plainte et on demande réparation au juge ou à une commission, parce qu'il faut que la justice soit restaurée et le dommage, autant qu'il est possible, réparé et le coupable puni. Et si quelqu'un nous menace, nous harcèle, nous diffame, nous agresse verbalement ou physiquement, nous fait un mauvais procès, il est juste et normal que nous nous défendions. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus, qui semble faire fi de cet impératif de justice, pourtant la plus élémentaire. Certains de ses conseils sont à la rigueur recevables. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Nous pouvons l'entendre et être d'accord qu'il faut être généreux et altruiste, être un créancier compréhensif à l'égard de nos débiteurs, avoir de l'empathie pour celui qui est dans le besoin, donner au Téléthon, accueillir le migrant, partager même un peu plus que de son superflu. Là aussi, les non-croyants pratiquent ces vertus de magnanimité et de générosité. Mais Jésus va plus loin. Je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il ne parle donc pas seulement de générosité, mais il semble nous demander de ne pas nous défendre quand on est victime d'une injustice, de se laisser agresser. Saint Paul sera dans la même veine, disant aux Corinthiens, pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? pouvons essayer d'interpréter ces consignes de Jésus comme un discours non violent, voire pacifiste, genre Gandhi, et se dire que Jésus nous met en garde contre le cercle vicieux de la violence qui engendre la violence, comme disait déjà le tragique grec Eschyle. Et c'est le Dalai Lama qui faisait remarquer que l'histoire nous montre que la violence résout rarement les problèmes et crée en revanche d'innombrables souffrances, et que l'on voit aussi que même lorsqu'elle paraît sage et logique pour mettre fin à des conflits, on ne peut jamais savoir si au lieu d'éteindre un feu, on n'est pas en train d'allumer un brasier. Mais au pays attaqué par un pays voisin, à la femme violée, au conjoint battu par son conjoint, aux mineurs victimes d'abus sexuels, à la personne vulnérable victime de harcèlement ou d'abus psychologiques ou de conscience, est-ce que Jésus lui dit de ne pas riposter aux méchants? Et si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. On sait bien combien ce genre de conseils pieux venant de frères et sœurs dans l'Église à l'égard de ceux qui souffrent de la méchanceté des autres est inaudible et insoutenable et proprement scandaleux. Mais doit-on alors passer cette parole de Jésus sous silence, en ce qu'elle semble donner raison à l'agresseur, l'encourager à continuer, et faire alors de Jésus un complice, en invitant à se laisser agresser ou à laisser régner l'injustice? Ce commandement de Jésus, si difficilement audible, nous indique une voie de perfection. Il nous l'a dit. Et il nous a dit que cette perfection est celle de Dieu. Donc un chemin impraticable à vue humaine, selon la sagesse humaine dont parlait l'apôtre. Mais qui est pourtant ce à quoi nous devons tendre. Face à l'agression que nous subissons, nous pouvons l'esquiver ou riposter. Face à l'injustice dont nous souffrons, nous pouvons nous défendre ou nous venger. Mais Jésus, par sa parole, qui peut sembler scandaleuse, nous demande de nous interroger si le rétablissement de la justice, la réparation du dommage subi, est un but suffisant. Mon agresseur a payé, justice a été rendue, le châtiment du crime est-il satisfaisant? Ne faudrait-il pas que le méchant devienne juste pour que, enfin, toute justice soit vraiment restaurée? Jésus nous invite à désirer cela. Non seulement ne pas nous résigner au triomphe du mal, mais ne pas nous satisfaire du rétablissement de la justice humaine, mais croire et vouloir la capacité de conversion du méchant, à emprunter un chemin de justice qui va jusqu'à la justification de l'autre, non pas de ce qu'il a fait, mais de la personne qu'il est, aussi pécheresse soit-elle. Jésus ne dit pas pourquoi il faut tendre l'autre joue. Comme Jésus n'est pas un entraîneur de boxe, il serait absurde que ce fût pour que l'autre nous tabasse encore plus, pour qu'il puisse impunément ajouter de la violence à la violence, du mal au mal, de mépriser le sanctuaire de Dieu qu'est tout homme et toute femme. Ce serait du masochisme, de la résignation de la part de celui qui donnerait un tel conseil à la victime du mal. Une non-assistance à personne en danger, une complicité avec le mal et l'injustice. Or, nous le savons, il n'y a en Jésus aucune complicité avec le mal, car il est le seul juste, car lui, il est parfait, comme son Père est parfait. Si Jésus nous dit cela, ne serait-ce pas pour nous inviter à en appeler à voir la part d'humanité de mon agresseur, à en appeler à sa part d'humanité, pour qu'il prenne conscience du mal et qu'il se convertisse. Car si je suis victime, il est normal que je souhaite le rétablissement de la justice qui m'a été déniée. Mais si je suis disciple, je veux souhaiter le rétablissement de la justice chez celui qui a commis l'injustice. Je veux qu'il se détourne du mal pour faire le bien. Je veux souhaiter qu'il se convertisse. Il ne s'agit donc pas de banaliser le mal ou de justifier l'injustice, mais de prendre les moyens, aussi fous nous semblent-ils aux yeux de la sagesse humaine, de rendre juste celui qui ne l'est pas encore. Il y a donc dans ces phrases de Jésus, comme celle qui suit, « Aimez vos ennemis » comme une aporie ou un commandement paradoxal. Comment peut-on aimer son ennemi? Cela passe par la non-violence. « Remets ton épée au fourreau, » dit-il à Pierre, qui veut le défendre contre les soldats venus l'arrêter. Mais aussi par la parole. « Pourquoi m'as-tu giflé ?» dit-il au serviteur du grand prêtre. Et la volonté de sauver l'autre. « Pardonne-leur, » demande-t-il à son père, depuis la croix. Si nous répétons à une personne victime d'une injustice ou d'une agression ces paroles de Jésus aussi radicales et absolues, ce serait un scandale, comme une gifle de plus pour la victime. Mais c'est une parole que le Seigneur m'adresse à moi, directement, sans le truchement de conseilleurs dont on sait qu'ils ne sont jamais, ou en tout cas très rarement, les payeurs. C'est à moi que le Christ dit « N'entre pas dans le cycle de la violence et de l'agressivité, même si on t'a fait du mal, mais agis pour que le mal cesse. » Et cela conduit, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, à réprimander l'autre, à ne pas tolérer la faute qui est en lui. Agis pour que le mal cesse, le mal que l'on commet envers toi et envers les autres, mais aussi le mal qui se trouve dans le cœur de celui qui le commet. C'est une entreprise qui peut nous sembler surhumaine. En fait, elle est impossible aux hommes, mais elle est possible à Dieu. Et c'est pourquoi, après avoir entendu ces paroles de Jésus, nous ne pouvons que lui demander sa grâce pour avoir sinon déjà pleinement la force de pardonner, pour avoir déjà au moins la volonté de vouloir aimer nos ennemis, même si nous ne sommes pas encore capables maintenant de le réaliser. Et demander à Dieu sa grâce pour avancer sur ce chemin, pour qu'il vienne restaurer en nous, dans nos frères et dans nos ennemis, sa justice, que nous avancions sur ce chemin avec l'aide de sa grâce. Amen.